nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Canal Académie a le plaisir de recevoir devant ses micros deux personnalités qui, tout en ayant entrepris des implications, des parcours différents, sont toutes les deux au service d'un art magnifique, universel, plaçant chacun d'entre nous en contact avec son propre monde intérieur unique, mais aussi en communication, voire communion avec l'autre, les autres et l'univers tout entier, la musique. Edith Kanadoshizi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été élue à l'Académie des Beaux-Arts en 2005. Vous êtes la première femme compositeur à avoir été reçue à l'Institut de France sous la coupole. Toutes vos œuvres sont publiées aux éditions Le Moine. Merci d'être avec nous. Michèle Worms, bonjour. Vous êtes directrice de la Lettre du musicien, directeur de la publication de ce mensuel hebdomadaire, précisez-nous.
15 numéros par an, voilà, parce que nous suivons le calendrier scolaire et nous respectons les périodes de vacances, donc c'est 15 numéros par an.
15 numéros, c'est un très joli chiffre. Alors, en préambule du sujet qui nous réunit à Canal Académie, pourriez-vous nous préciser, Michèle Worms, la place et la ligne éditoriale de la Lettre du musicien au sein de la presse musicale en France aujourd'hui ?
Eh bien, la Lettre du musicien, je l'ai créée en 1984, il y a donc déjà très très longtemps, parce que je travaillais dans des revues de musique destinées au grand public mélomane, qui ne prenaient aucun compte de ce qui pouvait intéresser les musiciens professionnels. Et je voyais arriver, en tant que secrétaire générale de la rédaction, des tas d'informations qui me passionnaient, parce que je suis musicienne amateur, mais on me disait « jette-les au panier ». Et à ce moment-là, j'ai demandé l'autorisation de créer une petite lettre, une petite feuille de chou pour les musiciens, une lettre tapée à la machine, envoyée à qui on connaissait, mes amis et moi, collaborateurs, tous bénévoles. Et il s'est trouvé qu'il y avait un grand vide, que les musiciens sont des personnes très isolées et qu'ils ont été tout de suite enchantés de ce bulletin qui est devenu au cours des ans, donc je dirais, une institution un peu à part dans le milieu musical.
Edith Kanadoshizi, je prends ce mot au vol, le musicien, un être isolé.
Ah oui, et pour nous vraiment la Lettre du musicien a été quelque chose de vraiment d'essentiel. Puisque que les musiciens soient instrumentistes, chefs d'orchestre, compositeurs, ils ont tous leur actualité. Et on n'a pas de moyen de faire passer cette actualité. Donc ça, c'est vraiment un instrument pour nous qui est absolument essentiel.
Un bel instrument de communication, oui, pour la musique. Sur votre site, Michèle Worms, superbement interactif et tout à fait réjouissant, dans sa disposition, nos auditeurs vont pouvoir retrouver les articles que l'un de vos 15 numéros vient de faire paraître, avec tout un article sur le Grand Prix lycéen des compositeurs. Oui. Alors, c'est cette actualité qui nous réunit toutes les trois devant les micros de Canal Académie. Il s'agit d'un prix annuel. Combien d'éditions auparavant ?
Nous en sommes à la 13e édition. Et là encore, nous avons commencé de façon très artisanale, en se demandant ce que nous pouvions faire pour amener les jeunes à la musique contemporaine. Nous nous sommes dit que le meilleur moyen serait, j'avoue que j'ai suivi un exemple qui existait déjà, qui est le Goncourt des lycéens, c'était de faire une sélection d'œuvres contemporaines représentatives des diverses tendances de la musique d'aujourd'hui, d'adresser des extraits à des lycéens ayant une option musique, donc des lycées déjà un peu sélectionnés, de les faire écouter et c'est ce travail qui est le plus important, c'est le travail de ces lycéens qui écoutent, analysent, travaillent des œuvres et puis qui choisissent celles qu'ils préfèrent.
Voilà. Alors justement, en vantant l'organisation, la présentation de votre site, je le faisais parce que j'y ai trouvé toutes les questions justement dans cet article que je souhaitais vous poser. Alors mon travail était déjà tout préparé, on va les reprendre ensemble si vous voulez, point par point, pour les auditeurs de Canal Académie. Alors ces questions sont les suivantes. Alors, première question, qu'est-ce que c'est? Vous venez de nous le dire. Oui. Le Grand Prix lycéen des compositeurs a pour but de faire découvrir des œuvres de compositeurs contemporains.
Absolument.
Donc, à qui s'adresse-t-il ce concours?
Ce concours s'adresse aux jeunes qui n'ont aucune possibilité, je pense que Edith sera d'accord avec moi, ils n'ont pratiquement aucune possibilité d'écouter la musique contemporaine dite savante, enfin travaillée d'aujourd'hui. Quand ils vont dans la rue, quand ils mettent leurs écouteurs, quand ils vont dans un magasin, ils sont baignés dans une musique commerciale. Nos jeunes lycéens sont déjà des amateurs de musique, mais ils ne sont pas tellement plus prêts à entendre la musique d'aujourd'hui. Leurs professeurs, d'ailleurs, souvent ne le sont pas non plus. Au début du Grand Prix, nous avons eu des lycéens qui nous ont dit « Ah bon, il y a encore des compositeurs contemporains. Moi, je croyais qu'on finissait par Ravel et qu'après Ravel, c'était fini. »
C'est un énorme chantier auquel vous vous êtes attaqué, effectivement.
Chantier.
Alors, ces jeunes ont quel âge? Parce que vous dites lycéen, mais à partir de la sixième, non, c'est quel âge?
Seconde, première, terminale. Voilà. Ce sont donc des élèves qui ont déjà une petite teinture de musique. Alors, c'est très amusant parce que quand nous avons commencé, et ça s'est vérifié au cours des années, les élèves de seconde sont terrifiés. Ils n'ont jamais entendu cette musique-là. Parce que c'est vrai, c'est une musique qui ne ressemble ni à Schubert, ni aux Beatles, ni au pop et au rock. C'est une musique étrange et toujours différente en plus. Et donc, ils disent « on ne comprend rien ». Très nettement. En première, ils ont déjà entendu. Et en première, ils commencent à analyser, à exprimer leurs préférences et... ils le disent aux élèves de seconde, ils disent « tu vas voir, c'est pas si mal et c'est intéressant ». Et en terminale, ça y est, le choc est passé et ils commencent à découvrir, à apprécier et à vraiment comprendre.
Alors justement, est-ce votre ressenti, Edith Kanachisi, vous qui avez vécu cette aventure, qui avez fait partie des compositeurs qui ont été sélectionnés, comment avez-vous vécu ces réactions de jeunes par rapport à votre musique? Et comment l'ont-ils écouté d'abord, cette musique?
Alors, ils l'écoutent, justement, la lettre du musicien leur font parvenir tous les disques qui sont sélectionnés et ils les écoutent avec leur professeur au préalable de notre visite. Moi, j'ai visité 3 lycées, un à Metz, un à Nancy et le dernier à Paris. Lycée Monet, qui a donné lieu justement à cet article de La Croix. Voilà, alors tout dépend justement, comme disait Michel, tout dépend du professeur, tout dépend de leur préparation. Si il y a des professeurs qui sont guère intéressés par la musique d'aujourd'hui, on a affaire à un auditoire qui est un petit peu muet et c'est très difficile quelquefois d'avoir à parler. Moi, là, j'ai dû quelquefois parler 2 heures sans questions, sans réaction et c'est quelquefois très, très, très dur. Et justement, d'essayer de les amener, de leur donner des pistes d'écoute, parce qu'effectivement, ils veulent toujours trouver quelque chose qu'ils ont l'habitude d'entendre. Mais il n'y a pas d'éléments récurrents, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas... Alors voilà, tout ça, ils sont complètement désarçonnés. Donc, il faut les amener à leur dire, moi, je leur dis par exemple, mais écoutez, c'est comme un paysage que vous découvrez. Moi, je suis là pour vous prendre par la main et puis vous montrer ce qui se passe. Et voilà, puis il y a une suite, il y a un chemin, alors on prend ensemble ce chemin, etc. Alors ce sont des pistes comme ça, des langages comme ça, mais chacun trouve le sien.
Edith Kanachisi, comment avez-vous accueilli l'annonce de cette nomination parmi les compositeurs retenus? Mais en préambule, je souligne que les auditeurs de Canal Académie vous connaissent déjà très bien grâce à votre participation à plusieurs émissions sur notre antenne. Et des moments qui ont pu, nous l'espérons vivement, nous, la rédaction, être autant de moments d'éveil, d'émotion, de captation de cette musique contemporaine que vous créez et que vous défendez. Alors, je précise que vous êtes violoniste de formation. La musique concertante occupe une place de choix dans votre œuvre.
Oui.
Je citerai pour les nouveaux auditeurs de Canal Académie qui ne vous connaissent pas encore, Les Rayons du Jour. Ce concerto pour alto qui a été créé en 2005 par Annabella Chavez et l'Orchestre de Paris dirigé par Christophe Eschenbach, ou votre pièce pour grand orchestre Omen, créée en octobre 2006 par l'Orchestre National de France. Alors justement, votre réaction lorsque la lettre du musicien vous est dit, est-ce que vous souhaiteriez... Alors on vous est très occupé, très communicante par rapport à cette musique.
Ah non, non, c'est au contraire quelque chose qui fait plaisir, bien sûr. Il se trouve que, ce que Michel vous dira tout à l'heure aussi, que cette sélection se fait sur des enregistrements discographiques parus dans l'année. Et que, précisément, j'avais un disque sur mon œuvre d'orchestre qui était paru dans l'année 2010, et regroupant justement toute mon œuvre d'orchestre sur 10 ans. Et voilà, c'est donc à cette occasion que j'ai été sélectionnée et qu'on a choisi une des pièces qui s'appelle « Times ».
Je présume que ce mot « Times » a dû déjà suggérer pas mal de questions de la part de ces lycéens.
Oui, ça, on m'a beaucoup questionné là-dessus, parce que c'est quelque chose qui les a interpellés, on va dire. Pourquoi le temps? Pourquoi? Notamment au lycée Monet, on a eu un très très bon échange à ce niveau-là. Oui, c'est quelque chose qui les a, voilà, qui les a
interpellés et qui a déjà engagé une conversation avec eux.
Tout à fait.
Alors, passer l'explication du mot « temps » à travers votre musique et votre création, est-ce que les questions de ces lycéens vous ont étonné? Elles étaient de quel ordre? Qu'est-ce qui les a intéressés? L'œuvre? Le phénomène de création? La vie du compositeur? Son parcours? Ses difficultés? Est-ce qu'il y a une progression aussi dans votre relationnel avec ces jeunes?
Alors, il y a eu toutes sortes de questions, justement, sur le parcours, effectivement, parce que ça les intéresse beaucoup, quand même. Le fait d'avoir un contact direct avec un compositeur, ça démystifie, en quelque sorte, hein, le compositeur. Il dit, bon, alors, petit à petit, ils s'enhardissent et nous posent des questions beaucoup plus personnelles, comment on a commencé à écrire, comment ça nous est venu, comment on travaille. Il y a eu même des questions, est-ce qu'on était angoissés ou... Est-ce que... Et c'est vraiment, j'ai été très, très étonnée de questions qui étaient tout à fait pertinentes et personnelles. Et aussi un petit peu d'ordre existentiel, justement, à propos de Times. Pourquoi j'avais choisi ce thème-là, des diverses dimensions du temps, diverses façons de ressentir aussi le temps. Donc voilà, il y a vraiment toutes sortes de questions. Et ce qui est amusant quand on fait ces rencontres, c'est que petit à petit, quand y en a un qui se lance, et puis après un deuxième, et puis finalement, ils commencent à s'enhardir. Et plus on avance, plus on arrive à des questions personnelles.
C'était une journée passionnante. D'abord parce que Edith a dit très simplement et de façon précise, elle a répondu de façon très précise à ce que demandaient les lycéens. Et plus on allait, plus les questions étaient intéressantes, personnelles, pertinentes, sur l'inspiration, la création d'une œuvre, l'organisation du temps, justement.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Alors, vous parlez, Michel Worms, de entre 3000 et 4000 lycéens, de quelques 90 lycées qui prennent part à ce concours. Alors, Edith Canaccisi a parlé pendant combien de temps et elle s'est promenée dans combien de lycées? Expliquez-nous l'organisation.
Alors, ce n'est pas tellement les voyages dans les lycées, c'est le nombre d'inscriptions dans les lycées. Quand nous avons commencé avec 14 lycées dont nous savions qu'ils avaient une option musique. Donc nous avons eu un tout petit panel d'élèves, mais très très vite cela a fait boule de neige. Et donc nous avons maintenant, depuis 2-3 ans, environ 90 lycées qui répondent à notre proposition d'inscription. 92 même cette année. Donc, prenez ces 92 lycées avec 3 classes chacun, seconde, première, terminale. Mettez une quinzaine d'élèves par classe et faites la multiplication. Donc, je ne vais pas la faire tout de suite parce que je me tromperai, mais ça veut dire que chaque année, nous avons environ 3000 élèves qui écoutent, et c'est le but. Le but n'est pas une compétition, le but ce n'est pas un concours, le but c'est que nous avons chaque année 3000 élèves qui écoutent, analysent, discutent et écrivent leurs commentaires sur des musiques sérieuses de notre temps. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de formidable. Nous l'avons lancé, mais je ne me doutais pas du tout que ça prendrait cette ampleur. Et je ne me doutais pas de la passion des étudiants. Je suis arrivée une fois en métro le matin, à 9h du matin, pour le grand jour où nous remettons le prix. Et il y avait énormément de jeunes qui allaient vers la même direction que moi et qui ne discutaient que de cela. Et c'est bouleversant. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la composition de un tel ? Ah, bien moi, j'ai trouvé ça terriblement stressant. Ils sont très vite stressés, hein, nos élèves.
Ils sont très vite stressés, oui, oui.
Très, très vite stressés.
Mais c'est un professeur de musique qui m'a dit, justement, à la fin de la soirée du Châtelet, que je connaissais, le lycée La Fontaine, qui m'a dit, mais vous savez, je me rends compte d'une chose, c'est que tout ce qui les dérange, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui n'entre pas dans leur univers, est pour eux un stress.
C'est ça.
La découverte est souvent
la découverte,
un stress.
Voilà. La peur
de l'inconnu.
Tout ce qui est étranger à leur univers habituel, c'est pour eux, ils appellent ça un stress.
Alors justement, les paroles de Michel Worms et les réactions de ces lycéens sont tout à fait encourageantes et stimulantes par rapport
si
à ce jeune public.
Oui, on faisait ça à tous les lycéens, si tous les jeunes pouvaient avoir accès à ce travail, eh bien, nous aurions peut-être...
Ah oui, oui, je trouve. Et même, je pense qu'il faudrait commencer dans le niveau des collèges, parce que
mais
là,
oui,
ça passe beaucoup
ça
plus
passe
facilement.
C'est d'utilité publique, en quelque sorte.
Moi, j'ai eu plusieurs fois des contacts comme ça lors de mes résidences avec des jeunes de 6e, et ils ont beaucoup moins d'a priori par rapport aux musiques. Vraiment, ils acceptent tout sans aucun jugement préalable. Parce que quand ils sont plus âgés, ils sont déjà plus...
C'est vrai. Et c'est vrai, et c'est très frappant, je dois le dire, parce que c'est vrai, nos élèves de seconde, terminale, etc., ont déjà donc écouté de la musique, et ils sont déjà habitués à la belle musique, ce qu'on appelle la belle musique classique, disons. Oui. Ils sont habitués à Mozart, à Schubert, bon. Alors que les jeunes élèves, eux, qui n'ont aucune culture musicale pour la plupart du temps, sont beaucoup plus ouverts à tous les sons qu'ils entendent aujourd'hui.
Tout à fait.
Nos élèves, je le dis franchement, sont plus classiques, et c'est souvent le compositeur qui les dérange le moins ou avec lequel ils se sentent le plus en prise directe, qui leur plaît le plus, ce qui est tout à fait normal.
Ce qui est intéressant, ce sont les différentes implications dans le fait de communiquer cette musique que vous créez, Edith Canaccisi.
Oui.
Différentes implications que vous êtes données un peu comme mission pédagogique, parce que vous enseignez la composition au CNR de
tout
Paris depuis 2007, et vous continuez.
Oui, bien sûr.
Vous
bien
avez
sûr.
Aussi pris la direction de conservatoire.
Oui, précédemment. Oui.
Précédemment.
Oui, ça, j'ai été donc tout le temps en contact
donc, créateur,
de jeunes, bien sûr.
Mais aussi communicatrice.
Mais aussi, avec des responsabilités pédagogiques importantes, oui.
Donc, c'était intéressant qu'un créateur comme vous puisse vivre cette aventure.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi le vecteur des résidences. Hein, ce que je disais, on a aussi la possibilité, étant compositeur, d'être invité dans un lieu, ce qu'on appelle une résidence. Et à ce titre-là, on est en constant rapport avec les collèges et lycées. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très important d'avoir une présence du compositeur, comme ça, dans des lieux de province différents. Et ça fait partie aussi, comme le Grand Prix des lycéens, ça fait partie de cette connaissance de la musique d'aujourd'hui.
Alors justement, dans l'article de La Croix dont vous nous parliez tout à l'heure, un article signé Emmanuel Giuliani intitulé « La musique moderne au crible des musiciens », Eh bien, grâce à cet article, nous vous suivons pas à pas au cours de cette journée. Alors l'article commence comme ça. Jeudi 8 mars, c'est comme si un peu on y était encore, hein, on y retourne. 16h45, la salle de musique du lycée Claude Monet, dans le 13e arrondissement de Paris, est aisément reconnaissable avec son piano droit, sa harpe, ses pupitres alignés le long des murs. Joël Mazot, donc le nom du professeur, attend ses élèves en disposant de rangées de chaises, des sièges de bois, métal, aux lignes sobres, à l'assise bien raide, comme on en voit dans toutes les écoles de France. Une trentaine de jeunes filles et de garçons, tous en classe de première, feront leur entrée d'ici à quelques minutes. Alors qu'ils aient choisi une filière littéraire, économique, scientifique, écrit-elle, ils se trouvent lors des cours de l'option musique. Donc ensuite, ils arrivent et puis, ils sont comment ? Ils sont en écoute tout de suite ou il faut faire preuve de persuasion, de charme ?
Bah, disons qu'il y a un petit instant de,
voilà, d'acclimatation.
Où il faut quand même un petit peu rompre la glace, mais ça se fait assez vite.
Le professeur vous présente ?
Le professeur me présente, oui. Et en l'occurrence, il se trouve ici d'ailleurs que je connaissais le professeur, mais je ne le savais pas auparavant, qui avait travaillé dans mon conservatoire de 15e. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très, très pédagogiquement formidable. Donc voilà, je pense qu'effectivement, le contact se fait assez vite. Et ça, je crois que c'est au compositeur, justement, à provoquer un peu les questions. À parler d'abord. Allez, je crois que, en fait, plutôt que de parler de lui, je crois que l'important, c'est de commencer à leur poser des questions. Dire alors, voilà, comment vous avez réagi ? Et à partir de ce moment-là, le dialogue s'instaure plus facilement.
Oui, parce
je peux
que ça
dire
a été...
que le contact s'est établi très vite. Très, très vite. Je crois qu'il y a eu tout de suite une sorte d'empathie entre
Il était vraiment sympathique, oui.
Oui. Oui, et puis ça a été tout de même, dans des confidences même.
Ah, tout à fait.
Par rapport à votre vie de création, allant jusqu'à « Sans musique, je ne conçois pas ma vie », ou encore, bien sûr, il y a une dose de névrose chez tout compositeur. L'angoisse est un puissant moteur de création, etc. Donc, vous vous êtes livré en quelque sorte à ces jeunes gens.
C'est une question qui m'avait posée justement là-dessus en demandant si les compositeurs étaient angoissés. Donc, je leur ai répondu que c'était pour ça qu'il ne fallait pas psychanalyser les artistes parce que ça risquait de les perturber dans leur travail de création. Et que, pourquoi pas, oui, ça peut être une catharsis aussi.
Comment sont sélectionnés et les compositeurs et les œuvres de Michel Worms, et comment les lycéens votent-ils ensuite ?
Alors, nous avons changé de principe en cours de route. Jusqu'à l'année dernière, nous avions décidé qu'il serait sympathique et que ce serait plus alléchant pour les élèves de leur faire connaître des jeunes compositeurs. Donc, nous avions choisi des œuvres monographiques, des CD monographiques, donc consacrés à un seul compositeur, de moins de 50 ans, français ou résident en France, parce que sinon, on n'en finit pas. Et c'est ce qui s'est passé pendant 12 éditions. Et puis, avec nos partenaires, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, finalement, bon, des jeunes compositeurs, il y en a, mais il n'y en a pas tellement. Nous avons fait le tour de ceux qui sont les plus connus et les plus, peut-être, talentueux. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres. Et on s'est aperçu que certains disques sortaient, de jeunes compositeurs sortaient juste avant le choix du comité de sélection. Enfin, ça devenait quelque chose d'un tout petit peu moins intéressant. Voilà. Et on s'est dit, au fond, c'est ce choix,
cette sélection
devient moins intéressante. Et si nous choisissions plutôt les œuvres écrites depuis moins de 10 ans et parues cette année en CD monographique de compositeurs ayant n'importe quel âge. Imaginons que M. Pierre Boulez ait écrit dans les 5 ou 6 dernières années une œuvre. Il faut pouvoir la présenter à nos élèves. Monsieur Dutilleux, qui a 92 ans, pareil. Donc, nous avons changé la règle du jeu. Et donc, le résultat a été assez extraordinaire parce que ça s'est vu. Nos professeurs et nos élèves ont dit, alors là, c'était très difficile. Parce que là, ils avaient affaire non plus à des jeunes compositeurs plus compréhensibles pour eux, parce que ces jeunes compositeurs utilisent toutes les techniques de la musique d'aujourd'hui, ils les intègrent et tout. Et là, ils se trouvaient devant vraiment, j'allais dire, des gros morceaux.
Un nouveau monde à déchiffrer pour
eux. Un nouveau monde à déchiffrer, vraiment de la vraie, vraie grande musique d'aujourd'hui. Et ils nous ont écrit en disant, même les professeurs,
très difficile cette année. Travail très difficile.
Donc c'est la première version, première.
C'était cette première version.
Ah formidable, ouais, très bien.
Oui, c'est amusant.
Et comment les lycéens votent-ils alors?
Alors là, nous avons demandé aussi première chose aux compositeurs eux-mêmes de choisir l'extrait qu'ils souhaitaient faire écouter à leurs élèves. Alors qu'avant, nous les choisissions selon ce que nous... Enfin, nous avons un comité de sélection très sérieux, composé de journalistes spécialisés, de deux collaborateurs de la lettre. Là, nous nous sommes dit qu'au fond, c'était au compositeur de choisir l'extrait qu'il avait envie de faire écouter. Donc, les élèves reçoivent les disques. S'ils en ont le temps, ils écoutent tout le disque. Sinon, ils se bornent à écouter les 10 ou 15 minutes qu'on leur a demandé d'écouter. Ils discutent entre eux, ils notent leurs impressions, ils notent leurs commentaires et ils choisissent l'œuvre qu'ils ont préférée.
Edith Cana de Chizy, en art, pas de compétition. Mais là, dans ce domaine-là, êtes-vous bonne joueuse? Parce qu'il faut le dire maintenant aux auditeurs de Canal Académie, Philippe Hersant a remporté pour cette...
Philippe Hersant est le compositeur qui a obtenu cette année le Grand Prix lycéen des compositeurs.
Alors, quelques mots par rapport à ce compositeur?
Philippe Hersant, peut-être différemment des autres compositeurs que nous avions sélectionnés, et je ne sais pas si Edith sera d'accord avec la façon dont je le formule, a une forme de composition qui est peut-être plus familière à celle de nos élèves. C'est-à-dire, il l'a dit lui-même d'ailleurs, qu'après ses études au conservatoire où il avait appris toutes les techniques les plus avant-gardistes et modernes de composition, cela ne lui plaisait pas et qu'il est revenu à des techniques, je dirais pas plus classiques, mais quand même plus néotonales, plus accessibles. Et je crois que c'est ce qui a plu.
Ce qui a moins désarçonné votre jeune public de votre temps.
Voilà, exactement. De même que l'année dernière, Thierry Machuel, notre lauréat, avait fait un chœur très très beau, magnifique, mais aussi dans des tendances très accessibles, à partir de paroles de détenus de Clairvaux qui avaient beaucoup ému nos jeunes. Parce que nos jeunes sont très facilement émus. Là, nous avons fait la création que nous avions commandé au lauréat de l'année dernière. Et je dois dire que ça a été un grand moment. Je ne sais pas si vous étiez là,
oui,
Edith.
Oui,
et ça a été un grand moment parce qu'ils écoutent ça avec une passion, avec une émotion, un silence complet. Et puis après ça, c'est la standing ovation. Enfin, c'est, voilà. Donc, je pense que Philippe Hersant correspond bien à la fois par son caractère, je dirais, conservato-novateur. au goût de nos lycéens. Donc c'est pour ça que je dis, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition. Edith va nous en parler. Les autres compositeurs, il y avait après Philippe deux ou trois compositeurs qui se tenaient vraiment très près les uns des autres et deux qui ont été absolument, dont Canada Edith, et puis deux qui n'ont pas été compris du tout, qui étaient les plus rêvés, disons.
Mais moi, je dirais que c'est ce que Michel a dit tout à l'heure. L'important, c'est que tous ces lycéens aient écouté toutes les musiques. Moi, c'est vrai, je ne suis pas du tout dans une mouvance un petit peu passéiste. J'ai toujours suivi mon chemin dans quelque chose d'assez novateur. Mais vraiment, je crois qu'il en reste quelque chose. Ça a été un chemin pour eux de découvrir ça. Et je crois qu'il y a une ouverture vraiment qui s'est faite, enfin, en tout cas, que j'ai vraiment senti chez certains. Donc je crois que c'est ça qui est important dans ce concours. C'est bon, bien sûr, il y en a toujours un qui remporte le prix, mais l'important, c'est que ces musiques-là soient connues.
L'important, c'est que se dire qu'en 10 ans, 40 000 jeunes auront écouté de la musique contemporaine. 40 000. Alors, parmi eux, beaucoup ont décroché, beaucoup n'ont pas aimé, beaucoup ont même détesté.
Oui, oui.
Et parmi eux, il y a des révélations. Là, je vais publier dans notre prochain numéro quelques réactions d'élèves qui disaient « Je n'avais jamais entendu ça, mais c'est merveilleux. »
Alors justement, pour terminer...
Déjà dans le dernier numéro.
Dans le dernier numéro, absolument. Oui.
Pour terminer cette émission, avec vous, Edith Cana de Chizy et Michel Worms, abordons ensemble rapidement un sujet qui va figurer au sommaire du 415e numéro de la Lettre du musicien, avec ce titre, ce point d'interrogation, « L'école sans musique ». Alors, le déclin de la fréquentation, c'est ainsi que commence l'article. et de la pratique de la musique classique dénoncée par tous les acteurs de la filière musicale tient essentiellement à la quasi-absence de la musique des programmes de l'éducation nationale. Alors, les cahiers de doléances, mesdames, sont ouverts aujourd'hui en période électorale. Donc, nous pourrions terminer cette émission en faisant le point sur cette absence, donc, vous le signifiez toutes les deux, de la musique dans les programmes scolaires en France aujourd'hui.
Écoutez, à chaque édition de notre Grand Prix lycéen des compositeurs, lors de la remise du Grand Prix, il y en a toujours un ou deux qui se lèvent en disant « mon option musique va être supprimée ».
Oui, ce qui a été le cas encore aujourd'hui.
Ça a été encore
aussi
le cas. Oui. Il y en a eu deux qui ont dit « pourquoi ?» Parce que je n'atteins pas le quota d'élèves, il y en a 14 au lieu de 15 ou 12 au lieu de 13, et donc on me supprime mon poste.
Que faire, Edith Canadochisi, que faire? Vous qui avez ce pied dans l'enseignement, dans la
pédagogie. Écoutez, que faire? Moi, quand je dirigeais le conservatoire du 15e, entre autres, j'étais en relation avec le lycée La Fontaine, et avec le professeur qui y est toujours, d'ailleurs, on s'est beaucoup, beaucoup battu pour ça, justement, et aussi pour les élèves qui arrivaient en horaire aménagé. Puisqu'il y avait certains élèves de mon conservatoire qui allaient donc à La Fontaine, puisque c'était le 15e. C'était... Et là aussi, là encore, même déjà à ce moment-là, il était question de supprimer cette classe à horaire aménagé. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on est toujours obligé de
se battre. Lettres de pétition. Alors, des mouvements.
Oh ben, nous en parlons, nous en parlons tout le temps. Nous n'arrêtons pas d'en parler. Nous attaquons monsieur les ministres, tant et plus, qui monsieur à l'éducation nationale, personne ne s'est occupé de notre Grand Prix, qui réunit quand même à Paris, qu'il y a 1400 lycéens qui sont venus remettre le prix, 1400 lycéens de toute la France. Tout le monde s'en fiche complètement. Mais moi, j'ai un petit espoir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous travaillons beaucoup avec les conservatoires. Et les conservatoires se rapprochent beaucoup des écoles.
Oui, tout à fait. Ça fait que très, très, très longtemps.
Oui, mais de plus en plus.
C'est grâce à des initiatives certainement prises par
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, à la base, il y avait des initiatives personnelles. Moi, je me souviens qu'il y a très, très longtemps de ça, on avait fait un travail commun avec les écoles municipales, par exemple, pour les petits, que les professeurs viennent justement parler aux petits de la musique et puis ils passaient dans les classes pour voir les instruments, etc. Mais c'était vraiment des initiatives tout à fait personnelles, parce que c'est toujours pareil, que ce soit la ville de Paris ou que ce soit l'État, c'est jamais eux qui prennent l'initiative. C'est au bout du compte, à force de faire des actions comme ça, on finit par prendre en compte et on finit éventuellement à financer. Mais ça, c'est
autre chose encore.
Autre chose. Mais je trouve qu'il y a aussi une chose sur laquelle, enfin, qui manque, c'est la formation des professeurs, formation des professeurs de musique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque aussi, notamment en ce qui concerne la musique contemporaine aussi.
Bien,
moi, je pense que ça, vraiment, ça ouvrirait énormément de portes si les professeurs eux-mêmes étaient plus sollicités à ce niveau-là. Hein, Michel, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a un vrai problème à l'éducation nationale sur la musique en général, dite classique, et sur la musique contemporaine qui est complètement ignorée. Encore que le bac musique, mais le bac musique fait quand même une large part à la musique contemporaine.
Oui, ça c'est vrai.
Le bac musique est une bonne chose.
Oui, ça, tout à fait, c'est vrai.
Le choix des œuvres est bon.
C'est l'initiation à partir des petites classes, quoi.
J'ai fait une fois invité par une inspectrice de l'éducation nationale, très très militante sur ces sujets-là, et elle m'a invité une fois justement à une formation de professeurs, donc j'avais, je sais pas, peut-être une cinquantaine de professeurs, etc. Je dois dire que j'ai eu moins de réactions que de certains des élèves des lycées, vraiment, dans cette rencontre. J'avais l'impression qu'ils s'ennuyaient, mais vraiment fortement. Et ça m'a un peu démoralisé vraiment là-dessus. Je me suis dit, s'ils sont ennuyés là, alors qu'est-ce que c'est quand ils sont face à leurs élèves? Alors, ce n'est pas eux qui vont leur donner l'enthousiasme.
Bien, nous voyons l'ampleur
du sujet.
Des actions à poursuivre ensemble.
Mais c'est quand même très, très irrégulier. Parce qu'il y en a, par contre, alors vraiment, qui sont des gens passionnés.
Moteurs et qui souhaitent...
Pense entre autres ce professeur du 13e. Voilà, il y a vraiment, vraiment des gens. Et tout dépend d'eux.
On s'aperçoit maintenant...
que beaucoup de choses dépendent d'une personne.
Tout à fait. C'est l'initiative personnelle.
Pas tellement une question d'argent, pas tellement une question. Oui. Une personne.
Oui, oui.
Une question de volonté, une question de mise en route.
D'initiative, de créativité, de. Je ne sais pas, mais ces personnes-là, il faut les regarder.
Ce qui s'est passé au Venezuela. Enfin bon, c'est pas voilà, nul, mais voilà, il y a eu une personne, qui a...
Rappelez-nous ce qui s'est passé.
Le nom de ce fameux chef d'orchestre.
Monsieur Abreu, un Vénézuélien. Voilà. Qui a créé des orchestres dans les quartiers les plus défavorisés du Brésil. Et ce sont des vrais orchestres qui jouent de la grande musique avec un jeune chef absolument génial qui s'appelle Gustavo Dudamel et qui a amené une espèce de souffle nouveau. Et je ne sais pas combien maintenant il y a d'orchestres.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il était tout seul. Il y a une véritable pyramide d'orchestres, c'est-à-dire dans les plus petites
favelas.
Donc après, alors ils se sont stimulés parce qu'il faut qu'ils passent un concours pour entrer au niveau supérieur, etc. Donc ça fait une véritable pyramide. Mais au début, il était tout seul. Là aussi, c'est une initiative personnelle. Et puis, il en est sorti, le fameux Sistema, c'est-à-dire que c'est l'État maintenant qui prend complètement en charge toutes les études de ces jeunes. Vous voyez ça en France maintenant ?
Edith Cana de Chizy, Michel Worms, attendons ce souffle.
En tout cas, vous nous avez mis sur le même plan très gentiment et je suis très fière de ce que j'ai fait par l'être du musicien. Mais je voudrais dire que je ne me mets pas sur le même plan que les artistes, les compositeurs, les interprètes, parce que les musiciens sont une race à part de gens qui croient à leur métier, qui agissent, qui travaillent toute la journée avec passion pour ce en quoi ils croient et sans s'imaginer un instant qu'ils vont en retirer des bénéfices illimités. Ce sont des gens que je respecte infiniment et que j'aime, que nous aimons. Et je crois que si la lettre du musicien connaît un certain succès dans ce milieu, c'est parce que ils savent que nous sommes avec eux, pas dans leur petit effort parfois d'égocentrisme et de narcissisme qui sont tout à fait normaux chez des artistes, mais pour ceux qu'ils sont, et je crois qu'on a tellement besoin de musiciens en France et d'artistes que vraiment, moi, je suis en admiration devant eux. Voilà.
Merci Michel Worms, merci Edith Cana de Chizy. Nous aussi à Canal Academy, nous aimons les musiciens, les créateurs. Merci à toutes les deux.